Oh, hé, hein, bon.
Alex O'Mill vous livre ce qu'elle aimerait avoir pour Noël. Moi, Alex O'Mill, moi, je voudrais... Je voudrais que le Père Noël, qui par ailleurs est passé, mais qu'il repassera forcément un jour, il repassera par là, je voudrais qu'il dépose dans mes petits souliers un job de princesse. Je voudrais être princesse. Mais attention, parce que c'est quand même très, très spécial. Je voudrais pas être une princesse pour de vrai. Oh ben non, parce que les vraies princesses, elles se font méchamment chier et que je t'inaugure des hôpitaux et que je coupe des rubans avec des ciseaux qui coupent pas et que je serre la main à des tas de gens qui ont sans doute des tas de maladies et que je visite des pays dont je me moque et des gens dont j'ai rien à faire et que j'ai peut-être une belle-mère, je ne dis rien, je ne donne pas de nom, mais qui est peut-être un tout petit peu casse-bonbon anglais. Eh ben non, moi je voudrais être une fausse princesse. Vous voyez, une fausse princesse avec peut-être un accent de teuton, un petit accent de teuton. En fait, c'est plus chic l'accent de teuton. En fait, c'est simple. Je voudrais être Rosemary Magdalena Halbach. Ce nom sans doute ne vous dit rien et je vous comprends, c'est normal. Par contre, le pseudonyme de Rosemary Magdalena Halbach va tout de suite vous parler. Elle s'appelait, pour de faux, Romy Schneider. Petite fille de comédien, elle voulait être dessinatrice, décoratrice ou écrivain de livres pour enfants. Enfin, n'importe quoi, mais elle n'avait pas du tout envie d'être comédienne. Ben non, comme ailleurs... Plus qu'ailleurs, on choisit pas forcément le métier de ses parents, voyez-vous. Un peu quand on est obligé, par exemple le boulanger, il reprend la boulange. Le boucher, il reprend la boucherie. Mais les princesses, elles ont pas envie de reprendre la princesserie. Et les actrices ont pas envie de reprendre du tout le théâtre de leur maman. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Mine de rien, on choisit pas sa famille.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Eh bien non, Maxime Le Forestier, on ne choisit pas sa famille. Romy Schneider sera donc comédienne. Et elle y prend vite goût d'ailleurs. Elle est née le 23 septembre 1938 à Vienne. 1938 à Vienne, ça vous dit quelque chose ? La grosse méchante Allemagne nazie vient d'annexer la mignonnette Autriche. En mars de la même année, mars 1938, vous voyez où je veux en finir? Aïe!
The sun on the meadow is summery warm. The stag in the forest runs free. But gather together.
Famille Schneider aménage dans les Alpes bavaroises à Berchtesgaden. Ah, Berchtesgaden, c'est pas n'importe où, n'importe quoi, n'importe qui. Un tout petit vol d'oiseau de la résidence secondaire d'un certain, je ne sais pas si son nom vous rappellera quelque chose, d'un certain Adolf Hitler. Vous connaissez, il y a des gens qui connaissent. De cette époque, on voit quantité de photos où la jeune Magda Schneider, la maman de Romy, sourit sur la si jolie terrasse de l'actuel maître du monde. Oh, ça fait froid dans le dos. Cette plaie, Romy la portera toute sa vie, tout le long de sa si courte vie. La collusion est proche, si souriante sur les clichés de la si jolie carrière de Magda Schneider. Et ben du coup, après la guerre, elle va subir un léger, voire terrible ralentissement. Sans emploi, on propose à Magda un assez mauvais film. A-t-elle le choix ? Lila Blanc est le titre. Dans ce film, on recherche quelqu'un pour jouer sa fille. Elle propose la sienne. Voilà une destinée qui se noue. Loin de ce que la très jeune fille avait préalablement envisagé, on remarque aussitôt le naturel confondant de la jeune actrice et son exceptionnel photogénie. Bon sang de bonsoir, de bon sang de bonsoir. Qu'elle était jolie. Si près, très près, trop près de la proximité de l'Autriche avec le régime nazi, la famille Schneider cherche à redorer son blason. Et quoi de mieux que de ressusciter les mânes de leur idole absolue, Elisabeth de Wittelsbach, impératrice d'Autriche-Hongrie. Bref, pour ne dire qu'un mot, Zizi, c'est Zizi, Zizi. Les crinolines virevoltantes, les bons sentiments dégoulinants de mièvrier et de guimauve, la beauté sans conteste de Romy, et même en prime, et oui en prime, Magda Schneider, la maman, qui joue le rôle de la mère de sa fille, et veille ainsi à faire fructifier son maternel investissement. Ben oui, la chômeuse Magda Schneider a trouvé un moyen très original de continuer à gagner sa vie à travers le prisme de sa fille. Allô Freud ? Romy devient dans l'instant la seule chance pour Magda de tourner Ce sera donc Sissi impératrice. Magda y joue encore la momon. Sissi face à son destin, toujours Magda en mère attentive.
Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter pour changer de saison. Pour changer de maison, pour changer d'habitude, j'y pense chaque soir en guettant du regard ton enfance qui joue à rompre les amarres et me laisse le goût d'un accord de guitare. Tu as tant voyagé, moi de mon côté, j'étais souvent partie. Des Indes à l'Angleterre, on a couru la terre, mais pas toujours ensemble. Et à chaque retour, nos mains se rejoignaient sur le dos de velours d'un chien qui nous aimait. C'était notre façon d'être bons compagnons. Mon enfant, mon petit, bonne route. Bonne route, tu prends le train pour la vie et ton cœur va changer de pays. Ma fille, tu as 20 ans et j'attends le moment du premier rendez-vous que tu me donneras chez toi ou bien chez moi. Ou sur une terrasse où nous évoquerons un rire au coin des yeux, le chat ou le poisson qui partageait nos jeux, où nous épellerons les années de ton nom à vivre sous mon toit. Il me semble parfois que je t'avais perdu. Je vais te retrouver, je vais me retrouver dans chacun de tes gestes. On s'est quitté parents, on se retrouve amis. Ce sera mieux qu'avant, je n'aurai pas vieilli. Je viendrai simplement partager tes 20 ans. Mon enfant, mon petit, bonne route sur le chemin de la vie. Nos deux cœurs vont changer de pays.
Alors, bien évidemment, dans la vraie vie, Magda Steiner va prendre la chose un peu moins merveilleusement que Isabelle Boulay, ma fille, mon enfant, va vivre ta vie, ciao, à la prochaine. Elle va assez peu apprécier que sa petite chérie, sa petite Romy, la quitte. Celle-ci refuse un quatrième Sissi de peur de finir étouffée dans son corset. Donc, il va falloir que maman trouve du boulot toute seule. Et c'est pas simple. Donc ce sera les jeunes années d'une reine où Romy sera la très jeune reine Victoria. Bon, Magda a encore réussi à se faufiler pour devenir la gouvernante collante et indispensable. Mais ce sera terminé. Le cordon ombilical est de plus en plus serré, de plus en plus lourd. Il est temps de le couper. Pendant encore un tout petit temps, on l'enferme dans des rôles à costume. Elle y est tellement jolie. Ce sera la Belle et l'Empereur, Katia. Mais cette fois sans sa mère. Ah oui, non, sans sa mère, sans sa mère. Puis en 1958, l'immense star qu'elle est devenue entre-temps est sollicitée par le réalisateur français Pierre Gaspard Huit pour un film Christine. Elle choisit sur catalogue, la redoute, son partenaire, Alain Delon. Alain
tout babadabada, babadabada, nos cœurs y voient babadabada, babadabada, comme une chance, comme un espoir, comme nos voix babadabada, babadabada, nos cœurs y croient.
Ce ne sera pas à proprement parler un coup de foudre, la rencontre à Orly ne laisse rien augurer de bon. Elle ne parle pas français, il ne parle pas allemand, elle le trouve arrogant, il la trouve insignifiante. Merci les copains. Un an plus tard, et oui, ils seront follement amoureux. Elle aura quitté l'Allemagne pour suivre son Delon à elle, abandonné sa mère et son nouveau mari qui comptait bien thésauriser sur le nom juteux de sa belle-fille, c'est raté. Deux choses vont se mettre aussitôt en place qui vont impacter sa vie. Impacter gravement. Premièrement, l'Allemagne va considérer son départ comme un abandon. Les Allemands ne sont pas prêteurs. Deuxièmement, à mesure que le nom de Delon va grandir sur les affiches, le sien va disparaître, peu à peu se dissoudre dans le néant. Hollywood, néanmoins renifleur de chair fraîche, lui propose un contrat de 7 ans. Elle y arrive en 1962 pour en repartir en 1965. Décidément, Hollywood n'est pas pour elle. Et puis, restée seule à Paris, Delon en a profité pour grelucher ailleurs. À peine le temps de boucler ses valises et elle reçoit une lettre de 15 pages d'Alain, empêtrée dans une fin d'amour. Quand elle débarque à Paris, Alain est au Mexique avec Nathalie, enceinte d'Anthony. Les séparations, les douleurs, les abandons sont et seront le Golgotha personnel de Romy. À chaque fois, la croix du manque d'amour se fera plus lourde. En 1965, invitée par sa mère à l'inauguration du nouveau restaurant de son beau-père, qui lui ne lâche pas la Bankable, elle rencontre Harry Mayen. Il est metteur en scène de théâtre, gay comme un extincteur, juif. Son père est mort en camp de concentration. Certes, il est séduisant, encore que, mais peut-être Romy entrevoit un possible début d'expiation. Harry est marié, Romy va payer le divorce de son homme. Ils se marient vite. Le 15 juillet 1966, Romy est enceinte. Le 3 décembre de la même année, David vient au monde. David, prénom juif s'il en est. Romy, n'ayant jamais su faire les choses à moitié, met un frein à sa carrière afin de se consacrer tout entière à son enfant. Et les jours, les semaines, les années passent. La renommée est un caillou qu'on lance dans l'eau. Deux petits ronds, puis plus rien. La surface de l'eau a effacé le souvenir du caillou.
Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent des chemins que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches de midi, soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu balottes dans des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour où est-il? L'ambition a des lois, l'ambition est un culte. Tu voudrais que ta voix domine le tumulte. Tu voudrais que l'on t'aime un peu comme un héros, mais qui saurait quand même faire des ronds dans l'eau. Pour l'idiot, l'idiot de ton village, qui lui est resté là pour faire des ronds dans l'eau, pour faire des ronds dans l'eau.
À Paris, Alain Delon se prépare à tourner dans le prochain film de Jacques Deray, La Piscine. On cherche une jeune comédienne, vous lui donnez la réplique, si possible belle, si possible merveilleuse et si possible inénarrablement bien roulée. Alain Delon propose Romy Schneider. Et voilà la scène de 1958 qui se rejoue en 1969, un aéroport. Une star qui en attend une autre au pied de la passerelle. Mais là, les rôles sont inversés. la superstar Alain Delon, King Delon, vient tendre la main à une ex-princesse dégringolée de son trône, Madame Romy Mayenne, ex-Schneider.
J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y'a pas qu'au fond de la piscine, que mes yeux sont bleus marines, tu les avais repérés, sans qu'il y ait un regard, et t'avais appliqué. Maintenant je paie l'effet retard. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. C'est plein de chlore au fond de la piscine, j'ai bu la tasse chin chin. Comme c'est pour toi, je m'en fous, je suis vraiment prête à tout avaler, que m'importe si l'on me trouve à moitié morte.
Romy a 30 ans. Elle est d'une beauté presque irréelle et pourtant si adorablement humaine. Sa beauté irradie l'écran, nous fait presque croire à l'existence de Dieu. Oh ben oui. Et tout redémarre. En 1970, elle rencontre Claude Sautet. Une collaboration amoureuse autant que cinématographique s'engage. 1970, Les choses de la vie. 1971, Max et les ferrailleurs. 1972, Le sublime César et Rosalie. 1976, Mado. 1978, Une histoire simple.
Thank you.
Elle sera dans ces années-là, ces années d'un certain bonheur de vivre, encore un peu au chaud de ces 30 glorieuses qui vont pas tarder à s'arrêter. Elle sera le visage de toutes les femmes de ces moments. Elle portera leur rire et leur douleur, leur beauté et leurs blessures. On entendra le rire de Rosalie, la colère de Lily, la voix douce comme brisée de Romy qui chante « Pour les choses de la vie ».
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. La
Au début, au temps des crinolines, des filles à costume, elle était doublée par la comédienne Gilberte Aubry. Une petite voix, vous savez, Sissi, rappelez-vous la voix de Sissi, une petite voix douce, un tantinet sirupeuse, un rien crétine même. Une voix qui va bien avec les crinolines et les valses viennoises. Mais sa vraie voix à elle est autrement plus secrète, merveilleuse, troublante. Ah, elle vit en France où elle tourne sans arrêt. Son mariage avec Harry Mayen finit de se découdre. 1972, ce sera officiel. Le papillon est prêt à se brûler à la flamme et volette d'amour en amour. Elle a un besoin fou, presque handicapant, d'aimer et d'être aimée. En 73, elle tourne Le train de Pierre Granit de Fer et vit une idylle avec son partenaire, Jean-Louis Trintignant. Elle joue le rôle d'Anna Köpfer, une résistante juive qui tente d'échapper aux nazis. À nouveau, Romy tente d'expulser la douleur fichée en plein centre d'elle. Les photos qu'elle a vues, dont elle se souvient. La jeune Magda Schneider, sa maman, sur la terrasse du Berghof à Berchtesgaden, qui sourit à Hitler. Sitôt le film fini, Trintignant repartira vers sa femme. Sur ce même tournage, elle aura également rencontré Daniel Biazzini, attaché de presse. Il deviendra d'abord son secrétaire, puis son mari, puis le père de sa fille. Avant lui, même cicatrice en 1974, sur le tournage du film « L'importance est d'aimer » d'Andrei Wzlowski, elle s'éprendra de son partenaire Jacques Dutronc, qui à la fin repartira rejoindre Françoise Hardy. Bref, ils repartent tous. Elle se perd à confondre sans cesse les mensonges dus au métier avec la vérité, voire les vérités. Son cœur semble une porte laissée ouverte qui claque inlassablement au courant d'air. Pour tenter de calmer les effrayantes douleurs des ruptures, commence alors la valse incessante de l'alcool et des médocs. Tous autour d'elle la préviennent de la dangerosité de ce mélange explosif. Elle n'en a cure et planque les médicaments un peu partout. En 1974, elle épouse Daniel Biazzini. Sa fille Sarah naîtra en 1977. Deux enfants, donc, David et Sarah. Le mythe du pardon inatteignable s'enracine en elle, puise sa force dans les faiblesses de Romy. Elle portera cette culpabilisation jusqu'à la fin. Ne pas être juive, avoir une mère qui souriait sur les photos, là-haut, tout là-haut, là-bas, sur les hauteurs du Berghof. En 1975, c'est la rencontre avec Clara Dandieu, l'héroïne du vieux fusil. La folie des hommes, l'impossible défaite d'un seul, et Clara mourra dans la cour du château de Julien face à un lance-flamme. On entend presque jusqu'au malaise les cris, les pleurs, les suppliques. On voit son regard affolé d'animal traqué. Encore plus que Clara, c'est Romy qu'on entend, c'est Romy qu'on voit. La petite Romy qui supplie sa mère encore et encore et encore de ne pas sourire aux fureurs. C'est là-bas qu'elle apprendra le suicide d'Harry Meyen en avril 79. En février 81, elle divorce de Daniel Biazzini. Elle s'enfonce à présent dans le long couloir où désormais elle sera seule. Impossible de savoir si elle peut apercevoir la lumière au bout. Elle commence le tournage de La patiente du sans-souci. Le livre est adapté d'un livre de Joseph Kessel.
Cet air yiddish, si doux, si lancinant, je l'ai joué sur mon violon d'enfant, la mélodie qui a fait pleurer mes parents parle d'exil, de la vie des migrants. Il a suivi dans leur triste de pogrom en village qui s'enfuyait de Varsovie, de Berlin, de Russie pour venir vivre libre à Paris. On a tué devant le sans-souci à remplacer les cris dans l'abondance et dans l'oubli, tout recommence. Ce très vieil air, si doux, si lancinant,
Dans ce film, il est question de l'irrésistible montée des nazis et du cortège d'horreur qui les accompagne. À nouveau, Romy tutoie de près cette histoire encore si proche d'elle et qui la terrifie. En mai 1981, le tournage est interrompu. Romy est hospitalisée à l'hôpital américain de Neuilly pour l'ablation d'une tumeur au rein. La mort se présente à Romy, mais le pire reste à venir. Le 5 juillet 1981, son fils David, 14 ans, passe le week-end chez les parents de Daniel, qu'il aime tendrement. Pour ne gêner personne à la maison, David décide de rentrer en escaladant le portail. Un faux mouvement, l'artère fémorale qui se rompt et le sang qui se répand. Daniel mourra quelques heures plus tard à l'hôpital. Dans la maison des parents Biazzini, à Daniel qui s'est penché sur lui, l'a interrogé. « Je ne vais pas mourir, hein ?» Il est hospitalisé dans le petit hôpital de Saint-Germain-en-Laye. C'est un dimanche d'été, dans une calme banlieue parisienne. On a prévenu Romy. Elle est arrivée. Personne. Personne d'aucun des gens présents ne pourra oublier ce cri de mort et d'épouvante qui s'exhale soudain de ce cœur de mère touché par l'intouchable. C'est ce jour-là, dans ce couloir déserté de vie, c'est ce jour-là que Romy a commencé à cesser de vivre. Et pourtant, l'indicible n'a pas craché tout son venin. Et l'horrible monte encore d'un cran quand, déguisé en infirmier, d'ignobles paparazzi prennent des photos du petit garçon mort.
Qu'on me laisse enfin tranquille. Si on sait, vous savez, ce que certaines soi-disant photographes sont capables de faire, je pense que le public a le droit de le savoir. Qu'on se déguise en infirmier pour photographier un enfant mort. Qu'il y a une certaine presse qui achète et qui publie à la une, comme on dit. Où est la morale? Où est le tact?
Elle reprendra le tournage du film de Ruffio dans un épouvantable exutoire. Dans le film, Elsa, son personnage, parvient à sauver des nazis le petit Max. En regardant le petit Max, ou du moins le comédien qui joue Max, voit-elle David? Voit-elle David qu'elle n'a pu parvenir à sauver? Voit-elle la mort qui la cerne à présent de plus en plus familière? Les larmes d'Elsa regardant son petit garçon de cinéma viennent forcément de Romy qui se pose sur son petit garçon à elle. Elle achète une maison à Boissy sans avoir. Un nouveau compagnon, le producteur Laurent Pétain, s'occupe de sa fille, la petite Sarah. Fait avec beaucoup d'efforts les gestes de la vie pour vivre encore un peu. Au matin du 29 mai 1982, elle arrêtera de faire les gestes, arrêtera de prétendre vivre. Dans son appartement au 11 rue Barbet de Jouy, son compagnon la découvrira morte. La police renoncera à pratiquer une autopsie, renoncera à déflorer le fragile et terrible mystère de sa mort. À quoi cela aurait-il servi? Il y avait si longtemps qu'elle avait lâché sa vie. Accident suite à de trop nombreux excès, le cœur qui refuse de continuer à vivre, suicide, afin de basculer enfin de l'autre côté. Qui sait? Elle repose dans le tout petit cimetière de Boissy sans avoir. David est auprès d'elle. Elle avait 43 ans. Le long couloir a fini par l'aspirer. Elle s'y est rendue, s'y est perdue. Là-bas, tout au bout, tout au fond du couloir, un petit garçon l'attendait.